Vous pouvez vous reporter au schéma qui permet de se représenter les différentes étapes que l'on traverse au cours de la structuration du psychisme. La première étape, c'est le passage du zéro ou de l'infini au un. Le zéro serait en quelque sorte le vécu du fœtus, qui n'a pas la conscience d'un être séparé qui est totalement fusionnel. Donc, on peut supposer que son vécu est une sorte de vécu océanique, comme en lien avec l'infini, une sorte de vécu mystique, que Stanislas Grof appelle l'extase océanique dans l'univers amniotique. Le fœtus n'a pas de véritable conscience de lui-même, puisqu'il n'y a pas de frontière entre soi et l'autre. Et puis, il y a le passage à la naissance, qui est donc le passage du 0 au 1, au travers d'une expérience incroyablement forte. C'est la première étape à franchir, la première barrière, mais qui est en même temps la plus violente de toutes. Ce qu'on peut supposer, c'est que cette expérience crée un modèle de base important, cette première étape qu'on a réussi à franchir. Or, en fait, ce qui se passe là autour a été peu théorisé. Au niveau psychanalytique, on trouve Otto Rank, un des disciples de Freud, qui parle du traumatisme de la naissance, et puis Sandor Ferenczi, qui, dans Thalassa, évoque l'idée du retour à la mère amniotique. Toutefois, dans l'ensemble, on peut dire que ça n'a pas été tellement théorisé en psychanalyse, alors que pourtant ça semble être une phase très importante. Mais il est vrai qu'on n'a pas vraiment accès à ces vécus, d'où peut-être cette lacune. Ceci dit, il y a tout de même les travaux de Stanislas Grof qui sont intéressants, avec en particulier la respiration holotropique, qui est dérivée du rebirth. Stanislas Grof, un psychiatre hongrois, a été ensuite aux États-Unis, où il a beaucoup travaillé avec la respiration rebirth, mais aussi avec le LSD, et avec une importante utilisation de la musique. Il a théorisé ce qu'il constatait. Il a trouvé que lorsqu'on fait une expérience du genre rebirth, on semble revivre un certain nombre de choses liées à la naissance. L'idée, c'est que ce vécu est inscrit dans le corps, même s'il n'a pas été mémorisé neurologiquement, puisque d'après les neurologues, tout au moins d'après l'état actuel de la neurobiologie, théoriquement, on n'aurait pas les capacités de mémoriser ces étapes-là. En fait, il semblerait bien que cette expérience se soit inscrite quand même quelque part en nous, et qu'en la revivant, soit avec la respiration holotropique, soit avec certaines drogues, on retrouve quelque chose de ce qui est inscrit dans le corps, en ayant l'occasion à ce moment-là de lui donner une forme, à travers des images, des impressions, des sentiments, des sensations que l'adulte fournit à ce vécu brut. Et Stanislas Grof parle de quatre matrices périnatales fondamentales qui sont comme des espèces de complexes de vécu formalisés par des images, des émotions, des sensations, des impressions de ce qui a été structuré lors du passage de la naissance. Les quatre matrices périnatales fondamentales correspondent à ceci. Une première matrice qui est plutôt du genre union extatique au tout, c'est l'époque de l'univers amniotique. La deuxième matrice périnatale fondamentale, qu'il appelle aussi des coex, c'est-à-dire des chaînes d'épisodes traumatiques liées entre eux par un dénominateur commun. Dénominateur commun à l'extase fœtale dans la matrice périnatale fondamentale numéro 1, dénominateur commun des contractions utérines, quelque chose d'extrêmement violent qui est symbolisé par des images d'enfer, des images d'absence d'espoir, de prison, d'absurdité de la vie, de frustration, de masochisme, dans la matrice périnatale fondamentale 2. La troisième matrice périnatale fondamentale est marquée par le conflit entre mort et vie, mort et renaissance, Et ceci se passe plutôt au niveau de la progression dans la filière néonatale, avec un aspect un peu titanesque des forces en jeu, déclenchant des aspects agressifs, violents, sadomasochistes, qui en somme sont liés à cette espèce de surenchère entre pulsion de vie et risque de mort, et qui sont souvent représentés imaginairement par des images démoniaques, par des scènes scatologiques, par une rencontre avec des feux volcaniques. Et enfin, la quatrième matrice périnatale, qui est l'expulsion, la coupure du cordon ombilical, la lumière, la respiration, qui sont aussi des violences malgré tout, et qui donnent à la fois un sentiment d'une débâcle, d'une perte par rapport à l'extase océanique initiale, mais à la fois qui peuvent aussi amener des sensations extraordinaires de libération, de rédemption, d'énergie vitale. Donc, ce ne sont pas des vécus auxquels on a accès aisément. Mais peut-être cependant qu'un certain nombre de rêves éveillés nous font penser à une de ces matrices périnatales évoquées par Stanislas Grof. Et une fois que l'enfant réussit à passer à travers ça et qu'il choisit de vivre, qu'il accepte d'être une personne différenciée, eh bien, il passe dans la zone du 1. Alors, j'ai noté angoisse d'anéantissement avec un point d'interrogation. Non pas que je ne crois pas qu'elle existe, mais parce que dans la perspective psychanalytique classique, on ne connaît que angoisse de morcellement, angoisse d'abandon, angoisse de castration. Et dans la perspective psychanalytique classique, quand quelqu'un a des angoisses de mort, on les réfère toujours à des angoisses de castration, ou des angoisses de morcellement, ou d'abandon, et pas à d'autres angoisses. Alors qu'il existe peut-être une angoisse d'anéantissement qui serait liée à l'expérience de la naissance. Nous voici donc dans la phase du 1, qui correspond à ce que je vous ai déjà expliqué, l'enfant seul au monde, qui a le sentiment que tout le monde tourne autour de lui, qu'il n'y a pas de deux, qu'il n'y a pas d'autre, qu'il n'y a que des objets morcelés, que des morceaux de personnes. Il n'a pas pris conscience du fait qu'il est dans un univers dépendant d'un père, d'une mère, différencié, etc. On est tous passés par cette phase où l'on voit le monde en morceaux et où on a le sentiment d'être l'unique personne au monde. Mais si on ne réussit pas à en sortir, c'est-à-dire si on passe mal la phase dépressive, alors il y a ce que vous avez lu dans Changement en psychothérapie d'Edmond Marc. Il y a trois phases possibles, trois types de personnalités suivant Winnicott. 1. Il y a ceux qui sont avant la ligne de partage de l'expérience dépressive, qui n'ont pas réussi à franchir la phase dépressive, consistant à reconnaître que l'autre existe et qu'on est dépendant et fragile, au lieu d'être sans autre et tout-puissant. 2. Il y a ceux qui restent fixés à cette étape, qui n'ont pas réussi à la franchir totalement. Ils ont une frontière fragile qui a été mal établie, donc est à limite. 3. Et puis, il y a ceux qui ont passé cette frontière et qui sont plutôt de registre névrotique. Donc, autour de cette deuxième frontière qui va faire passer les gens du 1 au 2, l'enfant va découvrir qu'il n'est pas seul au monde et même qu'il est dépendant de sa mère, une personne totale et absolue avec un grand pouvoir, ce qui entraîne la déprime devant cette vulnérabilité, cette fragilité, cette perte de l'illusion de toute puissance, cette castration symbolique, etc. Mais si on accepte de passer par ce défilé-là, qui est un nouveau défilé à traverser, après celui du défilé vaginal lors de la naissance, eh bien, on arrive à une vision du monde beaucoup plus réaliste, où l'autre existe comme un objet total, et où soi-même, on existe comme un objet total. Et donc, on passe sur un registre névrotique, qui est déjà un gros progrès par rapport à l'étape précédente, puisque j'ai des frontières autonomes et que l'autre existe en face de moi. Donc j'ai une perception de la réalité qui est bien meilleure. Alors vous voyez à la page 2, si j'arrive mal à passer la phase dépressive, eh bien j'éprouve un trouble dans la frontière dedans-dehors. Une faible reconnaissance de la différence entre moi et l'autre et une difficulté à percevoir pleinement la réalité externe. On est possédé à la fois par un moi idéal, une grandiosité, et en même temps, on peut dire que le psychotique ou l'état limite éprouve une certaine haine de la réalité, puisque la réalité est frustrante, et qu'au fond, en refusant de passer la phase dépressive, d'une certaine manière, il essaye de nier cette réalité, suivant laquelle il est dans un registre de fragilité, d'impuissance et de dépendance. Et cette haine de la réalité amène aussi une attaque sur le raisonnement et la pensée, puisque ceci pourrait faire découvrir qu'en fait la réalité existe, que l'autre existe. Les angoisses sont massives, des angoisses de tomber en morceaux, des angoisses de morcellement ou d'anéantissement. Et le contenant psychique est très fragile, débordé par des pulsions, par les fantasmes, à défaut d'un contenant marqué par une frontière fonctionnelle. Devant ces vécus trop perturbants, les défenses sont lourdes, comme par exemple le clivage, c'est tout bon ou tout mauvais, et le délire. Alors que, une fois franchi la phase dépressive, eh bien au contraire, il y a un contenant psychique correct et fiable, l'autre est l'autre, moi c'est moi, les conflits sont internes, non plus avec la réalité, mais à l'intérieur de soi, avec les pulsions et les interdits, et il y a une qualité correcte du rapport au réel. Par contre, les problèmes névrotiques pour les gens qui restent fixés à cette phase et qui ont mal traversé la frontière suivante, qui est celle du passage du 2 au 3, à ce moment-là, il y a des fixations libidinales, des problèmes avec un surmoi mal établi, ou trop rigide ou pas assez, et un déficit énergétique face à la réalité du fait de la prégnance de cette vie intérieure bloquée, et des fantasmes liés à ces blocages. C'est-à-dire, comme il y a des fixations, vous avez vu ça dans le livre, fixations libidinales, au moment de l'avancée, on a moins de force pour faire face à un certain nombre de situations, du coup on les traite moins bien et du coup on régresse plus facilement. C'est l'image de Freud, de l'armée qui avance, qui a laissé un certain nombre de soldats dans une ville qui a été particulièrement difficile à conquérir, ou au contraire qui a été tellement les délices de Capoue qu'on n'a pas envie d'en sortir, et qui du coup avance en ayant moins de monde. Et ceci la rend plus fragile face à la nouvelle réalité. Ce qui veut dire que cette fixation dans les villes va faciliter la régression lors d'une difficulté libidinale avec telle ou telle chose rencontrée dans la progression. Fixation-régression. Donc ça, c'est le problème névrotique fait de conflits infantiles, de conflits entre désir et interdit, entre pulsions mal gérées. Ensuite, nouvelle frontière, nouvelle étape. Il s'agit de découvrir que non, on n'est pas deux, on est trois. Et il y a le père ou la mère qui sont dans le jeu. Et le parent en question, dont on croyait qu'il était uniquement centré sur nous, sur l'enfant, est occupé par des choses qui l'intéressent lui et qui sont très différentes de ce que l'enfant peut amener, et particulièrement la sexualité, faire l'amour entre adultes. La névrose consiste à avoir mal traversé la frontière du 2 au 3, c'est-à-dire tout ce qui se joue autour de l'Œdipe. Donc, dans tous les cas, dans mon schéma, je pense que c'est assez clair, si tu as un problème névrotique ou psychotique, c'est qu'il y a une phase que tu as mal gérée, soit vis-à-vis de laquelle tu t'es replié, soit vis-à-vis de laquelle tu continues à bagarrer. Par exemple, les états limites continuent à bagarrer sur la phase dépressive, alors que les psychotiques sont déjà repliés par rapport à cette frontière dépressive. Et les névrotiques continuent à se bagarrer par rapport au conflit œdipien. ou bien ils se sont déjà repliés sur des fixations libidinales diverses. Lorsque tu travailles sur la névrose, tu vas forcément, à des moments donnés, voir la reviviscence de certains pôles pré-œdipiens, même pré-génitaux, enfin plus archaïques, qui vont être éveillés et qui vont être de l'ordre plutôt du grandiose et de l'angoisse du morcellement. Et par exemple, la théorisation actuelle sur l'hystérie postule l'idée que sous une couche apparemment névrotique simple, il y a des noyaux très lourds et très archaïques. Actuellement, on a plutôt tendance, étant donné l'évolution de la clientèle qui se situe de plus en plus sur un registre état limite et de moins en moins sur le registre névrotique, on a plutôt tendance à faire une sorte de fourre-tout dans lequel se situe la névrose et en même temps tout ce que l'on peut trouver derrière. Mais en fait, il y a deux approches psychanalytiques. L'une qui met plutôt l'accent sur des gens qui ont beaucoup plus à faire au problème de narcissisme, et l'autre sur des gens qui ont beaucoup plus à faire au problème d'Œdipe. Les problèmes de Narcisse touchent les questions d'identité de base. Moi, l'autre, la frontière autour du moi, le contenant psychique. Donc c'est là où ça rejoint Winnicott, l'école anglaise, Bion, Balint, ou bien en France les écrits de Didier Anzieux sur le moi peau, par exemple. Ça, c'est plutôt la psychanalyse qui travaille dans la mouvance de Melanie Klein sur les relations d'objets, internes ou externes, et qui a un rapport avec la régression archaïque, comme vous l'avez lu dans Winnicott. Alors que la psychanalyse première mouture, à la manière freudienne, était beaucoup plus sur des thèmes œdipiens. Le sexe, le désir de séduire, l'agressivité vis-à-vis du parent du même sexe, etc. Peut-être parce qu'à l'époque, compte tenu du tissu social et de l'éducation initiale, les enfants trouvaient un environnement qui était différent du nôtre dans leurs premières années. Il y avait moins d'état limite. La question de l'identité était relativement bien placée. Et par contre, il y avait beaucoup de névrose, compte tenu de toute la difficulté de gestion des pulsions, et en particulier des pulsions sexuelles dans l'environnement. On peut se demander à quoi tient cette augmentation des cas d'état limite. Je pense que la hausse des états limites est due certainement à une foule de choses, mais il y a tout de même un délitement de la famille et des liens entre la mère, l'enfant et le père lors des tout premiers mois et des premières années, ce qui est quand même caractéristique de notre culture, avec les familles monoparentales, avec les difficultés pour les femmes d'être sur tous les fronts à la fois, d'être à la fois la mère et celle qui travaille à l'extérieur. Bon, alors l'ancienne culture dans laquelle a baigné Freud avait à nos yeux bien des défauts, comme par exemple le côté machiste, la rigidité, etc. Mais elle avait des grandes qualités telles que des points de repère très stables, une famille qui ne se défaisait pas facilement. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Je pense qu'énormément de choses empêchent la cristallisation d'une identité forte dans notre culture, mais pas forcément seulement la famille, il y a aussi l'ambiance sociale. Tout est fait dans notre environnement pour dire le grandiose, c'est bien. Vous pouvez tout avoir, il n'y a aucune raison que vous soyez frustré de quoi que ce soit. La frustration, ce n'est pas bien. Les tabous, c'est pas bien. Les limites, c'est pas bien. Qui sont autant de façons, en fait, d'attaquer une frontière qui n'est déjà pas forcément bien solidement établie et qui va en plus être remise en question par l'environnement dans lequel on baigne. Du coup, toutes les bases identitaires sont, pour beaucoup d'entre nous, relativement peu stables et peu fiables. Et c'est pour cela que l'on a affaire à des états limites. Vous comprendrez donc l'importance que je donne à la frontière fonctionnelle. Et je vous ai fait un schéma qui montre que l'on apprend à franchir des frontières qui sont déterminantes. Quand on a réussi à passer de fœtus à bébé, on a déjà fait un gros pas. Et quand on a réussi à passer de bébé tout puissant et imaginairement mégalomaniaque qui est seul au monde à reconnaître l'autre, on a fait un autre gros pas déterminant. Et quand on a réussi à passer ensuite l'acceptation du fait qu'on n'aura pas réussit finalement ni à tuer le parent du même sexe, ni à rapter le parent du sexe opposé, eh bien, lorsqu'on aura réussi ça, on aura intégré quelque chose de fort. On aura intégré les lois humaines majeures qui sont l'interdit de l'inceste et l'interdit du passage à l'acte meurtrier, au sens large. C'est-à-dire normalement, si on arrive à passer l'Œdipe. Pourquoi l'Œdipe est-il difficile à dépasser? C'est qu'il y a une surchauffe des pulsions, surchauffe du désir du petit enfant de séduire le parent du sexe opposé et de supprimer le parent du même sexe, et en même temps, surchauffe de l'interdit sur tout cela. C'est-à-dire qu'il aura beau faire et refaire, se battre et tout, il n'y arrivera pas. Et paradoxalement, la frustration de ces pulsions-là, de ces pulsions très fortes, aura un double intérêt. D'une part, intégrer la loi humaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer, voler, violer à volonté. Et d'autre part, pousser l'enfant à aller chercher ailleurs que dans la famille l'objet qu'il va séduire, la façon dont il va se positionner pour s'affirmer en rivalité avec les autres, etc. Donc il va y avoir un déplacement sur l'extérieur de la famille, qui est une des grandes lois humaines aussi. Dans les tribus primitives, l'exogamie, qui consiste à aller chercher un conjoint à l'extérieur de la tribu, est une des lois quasi universelles. Donc on peut dire qu'à chacune des frontières passées, l'enfant que nous avons été s'ouvre de plus en plus au monde. Il passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à beaucoup. Et au fur et à mesure, on élargit notre cercle de connaissances et de compréhension du monde et de possibilités de s'impliquer dans le monde au prix d'une douleur importante et d'une frustration importante et d'une limitation importante à chaque frontière que l'on passe. Et ce que vous allez voir, c'est que ce dont on va parler prioritairement, ce dont le patient est porteur, c'est d'une frontière mal passée et d'une partie qui continue à lutter pour que l'ancienne guerre termine enfin à son avantage. Par exemple, dans le cas de la névrose qui continue à lutter avec une fixation œdipienne, comme si ce n'était jamais terminé. Ou bien dans le cas des états limites qui continuent à lutter avec une fixation à la phase dépressive, comme si l'ardeur de rester seul maître au monde continuait à être extrêmement présente. Exemple, la difficulté de telle participante parmi vous pour faire les comptes rendus parce que ça n'est pas sa pensée, dit-elle. C'est comme s'il fallait que ça soit sa pensée, absolument et uniquement. Et que pour elle, c'est une question de vie ou de mort. Il faut que ça soit sa pensée, sinon elle ne peut pas le faire. Eh bien, ça, c'est une bagarre qui date de la phase dépressive. C'est-à-dire, comment va-t-on faire pour reconnaître que l'autre est puissant, qu'il a des savoirs que l'on n'a pas, qu'il est porteur de quelque chose qu'on n'a pas découvert, nous, et pouvoir gérer la déprime, la fragilisation, la vulnérabilité que ça induit. Rappelons-nous du mécanisme décrit par Mélanie Klein, permettant de se positionner autrement avec cet autre très puissant. C'est-à-dire non plus lutter contre pour essayer de le détruire, pour continuer à se dire je suis seul au monde, mais pouvoir découvrir, oui, je suis moins que cet autre, mais cet autre va pouvoir m'amener ce dont j'ai besoin. Et on débouche sur la gratitude. Il y a conflit entre la haine et la gratitude. Et la haine est plus spécialement issue de l'envie. Mélanie Klein a écrit un bouquin central qui s'appelle Envie et gratitude. Mais au fond, l'envie, c'est quoi? Il s'agit encore justement de la bagarre autour de la phase dépressive, car on doit alors reconnaître que l'autre possède des tas de choses qu'on n'a pas. La mère et ses gigantesques seins pleins de bon lait. À cette phase, le désir de détruire découle du sentiment d'être démuni de ce dont l'autre est pourvu. Et la sortie de cette douleur consiste à faire confiance au fait que cet autre est suffisamment bon, que cette mère est suffisamment bonne pour que finalement elle puisse sortir du statut imaginaire de reine toute-puissante qui possède tout en elle-même et qui ne donnera rien, et déboucher au contraire sur l'idée qu'elle est prête à nous passer le relais. Donc la sortie de l'envie, l'envie qui est au sens propre destructrice, c'est-à-dire j'aime mieux détruire ce que l'autre a plutôt que de le posséder moi-même, ça passe par la gratitude. Merci de me donner ça. Merci que tu sois ceci. Merci que tu aies fait le chemin. Et moi, je le ferai ainsi plus facilement à mon tour. Et souvent, ça débouche sur la possibilité de se dire, mais moi, je peux aussi avoir ça. Toutefois, pour en arriver là, il faut accepter que l'autre, pendant un certain temps, possède plus que ce que j'ai. Et beaucoup d'enfants ont une difficulté scolaire, enfin qui sont en difficulté scolaire, ont un problème avec ça. Parce que supporter pendant un temps de ne pas savoir et que le prof sache, et qu'il va falloir apprendre ce que le prof sait pour pouvoir soi-même savoir, eh bien, si ça se heurte trop avec la question de la toute-puissance imaginaire, ça empêche d'apprendre. Dans ce cas-là, l'enfant veut tout savoir tout de suite ou à sa manière. Ou, s'il s'agit d'une personne en formation de thérapeute, elle voudra faire le compte-rendu à sa manière et à sa façon de dire les choses, sans pouvoir du coup intégrer ce passage où l'on est vulnérable, dépendant, fragile, mais où l'on peut apprendre. Donc voilà, l'état limite se bat avec la frontière de la phase dépressive et avec tout ce que ça suppose, et Œdipe se bat avec toute la question de la gestion des pulsions. Ensuite, sur ce tableau, j'ai rajouté une phase, un peu artificiellement, qui est celle du passage à la scolarité. En fait, lors du passage de cette frontière, sortir de la famille pour aller à l'école, la grande école, celle où on rentre à 6 ans, eh bien, il y a souvent pour les enfants l'occasion d'avoir une difficulté. Souvent, c'est là où il y a des choses qui décompensent un peu. Mais en réalité, il ne s'agit là que d'une première frontière sociale qui sera suivie d'une longue série de frontières qu'on va devoir rencontrer dans notre vie, mais qui seront plus ou moins bien franchies en fonction de ce que l'on aura appris lors du franchissement de toutes les frontières précédentes. Donc, je l'ai mise là symboliquement parce que malgré tout, après l'Œdipe, l'enfant rentre dans la phase de latence, c'est-à-dire que pendant un certain temps, mettons de 7, 6, 7 ans à 10, 11 ans, il ne va plus être dans ces trucs de frénétique, de sexe, de violence, et il va beaucoup plus être intéressé par les copains, les jeux, le foot, les sublimations en fait. Donc à partir de cette époque-là, c'est comme s'il avait traversé une période tellement intense et tellement violente, la naissance, la phase dépressive, l'Œdipe, que maintenant on pose tout et on se repose. Et pendant quelque temps, il y a une sorte d'arrêt des questions très pulsionnelles, et en partie une dérivation ou une sublimation vers d'autres intérêts. Au lieu de vouloir aller voir ce que les filles ont sous leur jupe, eh bien, il va aller s'intéresser à toute autre chose. Il faut comprendre qu'en fait, la plupart des choses qu'on considère comme négatives possèdent un aspect positif si elles sont bien gérées. Exemple, le voyeurisme. Une fois sublimé et relativement désexualisé, ça donne quelque chose de capital pour l'être humain et pour l'enfant qui est la curiosité. La curiosité scientifique, la curiosité des chercheurs, la curiosité scolaire. Et si au contraire il y a une sorte d'écrasement trop brutal du fait par exemple d'un voyeurisme trop intense, surchauffé par des situations familiales, etc., alors il y a deux possibilités. Ou que ça ne se sublime pas et que ça devienne obsédant, ou au contraire que ça soit trop écrasé, et du coup ça enfouit la curiosité et l'enfant ne cherche plus rien. Il n'a plus de curiosité, il ne peut plus avancer. Le masochisme, eh bien, ça donne, une fois sublimé, désexualisé, la possibilité de supporter, de s'aventurer dans des expériences douloureuses, si c'est nécessaire pour atteindre son but. Donc on va supporter ça grâce à un certain masochisme bien compris. Le sadisme, c'est pouvoir s'affirmer même en s'affirmant au détriment des autres. Il y a des moments où il est nécessaire d'avoir une espèce de violence intérieure pour pouvoir faire son chemin. L'exhibitionnisme, c'est ne pas hésiter à montrer son côté solaire. On montre autre chose que le corps exhibitionniste, et donc on va faire des conférences, faire des choses comme ça. Et ça représente un exhibitionnisme bien compris, sublimé. C'est pareil pour chacune des étapes, chacun des versants. Par exemple, la schizophrénie avec cette espèce d'absence de repère, où tout est mélangé, où l'autre et moi ne sont pas clairement différenciés, où je ne sais pas si mes pensées me viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, etc. En même temps, ça donne une pensée participative. Ça donne ce que Lévi-Brull a pensé, a appelé une pensée participative, qui est un peu comme la mentalité primitive permettant de se sentir relié à tout. Il y a quelque chose de mystique aussi, qui peut être là-dedans, ou un domaine artistique. La paranoïa, qu'on appelle la maladie de la persécution, c'est aussi la maladie de l'interprétation. C'est-à-dire que la personne est toujours en train d'interpréter chaque signe. Exemple, si le présentateur a mis une cravate de cette couleur ce soir-là, c'est qu'il prépare telle ou telle chose. Sous ce versant-là, c'est faux. Mais sous un autre versant, ça peut donner une grande subtilité interprétative. Percevoir des petits signes auxquels les autres n'auraient pas fait attention et qui en fait veulent dire telle ou telle chose, etc. On peut dire par exemple que Freud était plutôt sur le versant paranoïaque, c'est-à-dire à la fois seul contre le monde entier et à la fois possédant une espèce de rigueur d'interprétation, une capacité à aller jusqu'au fond du moindre petit signe afin de comprendre à fond, etc. Il y a là un côté un peu paranoïaque, bien compensé, bien compris et utile. Inversement, Jung est complètement à l'opposé de Freud. Jung, c'est plutôt sur le versant schizophrénique. C'est des gros bouquins touffus, ça part dans tous les sens, il touche à tout. Il a intégré le Tao, l'alchimie, une vision un peu mystique des choses, l'inconscient collectif, etc. Très utile aussi, mais complètement différent de la pensée paranoïaque de Freud. Eh bien, les deux sont intéressants. Et on pourrait dire que plein d'aspects en nous peuvent être vus d'un côté comme pathologiques et d'un autre côté comme pouvant être très utiles. À la limite, on a aussi en nous de l'animal, du reptilien, du scatologique, etc. Puisque par exemple, vous connaissez la théorie des trois cerveaux, un cerveau reptilien, un cerveau limbique et le néocortex. Il est donc probable qu'il existe en nous aussi des pulsions totalement reptiliennes, animales, archaïques, en particulier par exemple toute la zone olfactive qui nous donne, si on ne la refuse pas et qu'on fasse avec, le contact avec les sensations les plus primaires et les plus vitales à l'intérieur de nous-mêmes. Donc nous nous situons sur cette ligne de crête intéressante à parcourir, consistant à ne pas basculer du côté pathologique, mais sans pour autant rejeter tout l'aspect intéressant de cette partie-là. Je me résume. Une fois qu'on a passé toutes ces frontières, plus ou moins facilement dans la prime enfance, ensuite, toutes les autres frontières qu'on va rencontrer dans notre vie vont être dépendantes de cette première donne. Alors, quelles sont les autres frontières? Eh bien, par exemple, là où il va y avoir des décompensations et des consultations de psychothérapeute, c'est à l'adolescence, bien entendu. Mais souvent, il n'y a pas de consultation parce que ça brasse dans tous les sens. L'adolescence, je vous en reparlerai. Une autre étape très importante, c'est le passage dans le monde adulte et le monde social. Souvent, il y a des années assez délicates entre 20 et 25, où en fait, on va devoir réussir à s'intégrer. Est-ce que je vais vouloir m'intégrer? Est-ce que je vais refuser ce monde de merde? Se dit le grand adolescent jeune adulte. Il y a tout un passage à faire. Du clivage un peu mélodramatique de l'adolescence, tout bon, tout mauvais, à l'ambivalence, qui suppose un certain nombre de compromis où on voit que les choses ne sont pas si mauvaises ou si bonnes, ce qui permet de s'intégrer. Souvent, le passage à la vie sociale est un problème. Vous aurez des gens qui consultent entre 25 et 30 ans parce qu'ils sont des espèces d'ados retardés. Ils sont mal situés, mal dans leur peau, ils n'arrivent pas à s'engager. Ils voudraient vivre une vie amoureuse et sexuelle, mais ils ne peuvent pas tenir un lien. Bon, frontière à franchir. Une autre frontière, c'est la mise en couple. Souvent dans la première ou la deuxième année qui suit la mise en couple, il y a plein de choses qui brassent, puisqu'on passe du 1 au 2, ce qui n'est pas si facile que ça, et que ça réveille des angoisses archaïques. Ensuite, une autre frontière, c'est l'arrivée du premier enfant. On passe du 2 au 3. Ça brasse dur. C'est à la fois une ouverture, une richesse, quelque chose de passionnant, et à la fois on commence à s'engueuler parce qu'on n'a pas les mêmes façons d'éduquer l'enfant. Voilà, du 2 au 3. Et puis une autre frontière, c'est quand l'enfant va aller à l'école pour la première fois. Alors là, on passe du 3 au beaucoup. C'est-à-dire qu'à nouveau, le système est remis en question. Quand l'enfant sort de la famille, quand l'enfant va à l'école pour la première fois, surtout la grande école plus que la maternelle. Donc, tout au long de notre vie, on va avoir un certain nombre de frontières capitales à traverser, qui ne sont pas sans rapport avec toutes les frontières qu'on a traversées dans l'enfance. Pensons à la crise de mi-vie, vers 40 ans, et plus tard au passage vers la retraite. La crise de mi-vie, c'est le moment où tu as suffisamment fait de choses, où tu as réussi à traverser beaucoup d'expériences, famille, enfants, travail, et où tu te dis, bon, ben c'est bien, mais maintenant. Et où tu t'aperçois que tout cela ne comble pas quelque chose de profond en toi. Donc il y a très souvent une crise assez importante dans ces âges-là, car il y a une mise en cause de son propre personnage. On peut dire que la première partie de vie est très fortement orientée par des valeurs qu'on a héritées de notre histoire, de notre environnement, de nos parents, et qu'à un moment donné, on commence à se demander, est-ce que je vais vivre ma vie entière sur mon personnage, ou bien est-ce que je vais trouver quelque chose qui corresponde à ma vraie personne? Donc c'est une crise souvent importante et qu'il faut bien gérer. En effet, il ne s'agit pas de renforcer le personnage et de recommencer la même donne ailleurs, sinon c'est râpé. Il faut accepter de pouvoir retravailler ce qui est notre propre vérité, s'apercevoir que c'est peut-être autre chose que ce sur quoi on avait mis l'accent, et si on ne le fait pas, ça nous rattrape 10 ans plus tard, et on a un gros choc bien plus fort pour pouvoir être obligé de changer. Vous me posez la question de la frontière ultime, celle de la mort. De mon point de vue, on gère le passage à la mort de la façon dont on a géré le passage lors des frontières précédentes. Donc si on a appris à se lancer avec un certain courage dans l'inconnu, sachant que l'ancien système est mis en cause et que ce ne sera plus l'ancien système qui sera en vigueur, qu'on va passer du 0 au 1, du 1 au 2, du 2 au 3, si on a appris à faire ça, avec une certaine confiance qui s'est développée au fur et à mesure, confiance dans la vie, dans nos capacités, on arrive vers la mort avec ce même état d'esprit qui se dirait ainsi, je ne sais pas vers quoi ça va me mener, ça me fait peur, mais en même temps, ce n'est jamais que le prototype même de l'expérience que j'ai faite ma vie durant. Bon, autre chose que j'ai mis aussi dans le schéma, c'est le soi. Alors le soi, qui dans le schéma traverse de bout en bout, c'est une notion assez controversée parce qu'elle est très différente selon les théoriciens. En gros, moi j'adhère à deux perspectives qui sont celles de Assagioli, la psychosynthèse, et celle de Jung. C'est-à-dire que le soi représente une force de synthèse qui existerait à la fois au centre de nous-mêmes et qui à la fois nous relierait aussi à la vie en général. Et il s'agit de faire suffisamment confiance à cette force de synthèse pour rester dans les opposés qui nous travaillent. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la lumière et l'ombre. Voir les deux en même temps, découvrir qu'on est les deux en même temps, et faire confiance au fait qu'en contenant les deux en même temps, ce que Jung appelle la coincidentia oppositorum, contenant les deux en même temps à l'intérieur d'un contenant psychique suffisamment stable, au bout d'un moment, il va surgir quelque chose qui sera une position méta et qui sera un avancement important de notre propre identité, permettant la coexistence des opposés dans une perspective identitaire plus large. Donc pour Jung, le soi est un noyau psychique qui est lourd de toutes les potentialités structurantes de la psyché et qui est en fait un concept limite. Pourquoi limite? Parce que pour Jung, le soi, c'est à la fois cette potentialité psychique structurante qui dépasse les opposés, qui cherche la totalité, mais en même temps, c'est un archétype qui nous relie à l'inconscient collectif. Donc à la fois un archétype collectif et en même temps quelque chose qui est au plus central de notre individualité, de notre intériorité, notre capacité de synthèse personnelle, qui se manifeste principalement par la réintégration des opposés dans l'unité. Donc le but, c'est de devenir quelqu'un qui soit un tout, mais un tout faisant coexister les opposés, exactement à l'image du dessin du Tao, auquel Jung a fait souvent référence. Vous connaissez avec le noir et le blanc qui s'entrelacent l'un et l'autre, hein? Le point noir dans l'aspect blanc, le point blanc dans l'aspect noir, et les deux qui s'entrelacent. Et cette réalisation de l'unité à l'intérieur de nous-mêmes serait une sorte de chemin de vie qui actualise l'archétype de la totalité, qui participerait à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et qu'on pourrait appeler Dieu, la vie ou n'importe quoi, selon la manière dont on l'enrobe. Ça serait un peu le but du développement psychique. Et quels sont ces opposés qui se battent en nous? Je vous renvoie à la lecture du chapitre Le cœur métamorphe, nature, culture, le mal, le bien, etc. Qu'il s'agit de reconnaître en soi comme étant présent, mais sans se laisser fasciner par l'un ou par l'autre, et en acceptant de se laisser travailler par cette confrontation, jusqu'à déboucher sur une intégration de ça à un niveau plus large. Donc ce qu'on pourrait dire aussi, pour reprendre une formulation plus freudienne, on peut penser qu'il y a les pulsions d'éros et les pulsions thanatos. Pulsion de vie, pulsion de mort, thanatos ayant pour but de délier. Probablement la vie elle-même est sous le signe d'éros, puisque c'est cette négantropie, c'est-à-dire le contraire de la règle normale qui est l'entropie, où les choses se séparent, se délient et se défont. La vie, c'est quelque chose qui est un paradoxe négantropique. Au fond, c'est bizarre qu'on ait quelque chose qui nous fasse résister à l'entropie pendant suffisamment longtemps. Et donc on peut sentir qu'il y a une sorte de force de lien à l'intérieur de nous, qui serait cette force d'éros, mais avec laquelle on peut être en conflit compte tenu des fixations qu'on a pu avoir et qui du coup nous empêchent de nous relier au maximum de nos expériences et de passer du 0 au 1, du 2 au 3, du 3 au beaucoup. Donc là, on débouchera sur l'idée qu'il y a une confiance à faire à quelque chose qui roule pour nous et qui veut qu'on soit de plus en plus capable de lier les différentes tendances à l'intérieur de nous. Or, le travail qu'on fait en analyse intégrative est justement dans le sens de cette capacité à lier les choses. Donc ça nous donne la troisième page, les buts de la thérapie axiale ou de l'analyse intégrative. Comme vous le voyez, il y a deux côtés. Il y a le côté restauration et il y a le côté réalisation. Restauration, c'est le travail classique de thérapie. Retrouver les traumatismes, s'en dégager, terminer les choses de l'enfance, trier les identifications, sortir des jeux, se libérer des injonctions, avec un point capital qui est de renforcer la solidité du contenant psychique et donc de renforcer la sécurité narcissique de base, qui est tout à fait fragile chez les états limites. Une fois qu'on est sûr de notre contenant psychique, eh bien, on peut contenir en sécurité les fantasmes, les pulsions, l'animalité, la folie. On peut aussi, dans ce cas, canaliser notre énergie, parce qu'on a une vision de la réalité suffisamment externe, suffisamment différenciée de l'intérieur, suffisamment objective, ce qui nous permet d'atteindre la réalisation de nos désirs. Il s'agit là du passage du principe de plaisir au principe de réalité. Le principe de réalité, je vous le rappelle, n'est que du principe de plaisir dévié, c'est-à-dire réussir à atteindre son plaisir, mais en tenant compte de la réalité pour que ça soit atteint d'une façon pérenne. Donc si je veux atteindre mon but, réussir à satisfaire suffisamment mes désirs tout en tenant compte de la réalité, il faut que je voie la réalité d'une manière suffisamment objective. Or, ceci dépend de la manière dont s'est structurée la frontière de la phase dépressive et la frontière de la phase œdipienne. À ce moment-là, j'ai une vue objective de la réalité. Sinon, j'en ai une vue faussée et du coup, je tape à côté. De plus, si on dispose d'un bon contenant psychique, on peut bien gérer les frustrations et les chocs. On peut donc, d'un côté, contenir l'aspect le plus violemment fou, animal, issu de l'intérieur, et d'un autre côté, les aspects les plus violemment agressifs en provenance de l'extérieur. Mais on peut aussi, grâce au rêve éveillé et grâce à ce qu'on vit dans le transfert positif, faire l'expérience de se faire confiance de plus en plus avec le soutien de l'accompagnement pertinent du thérapeute. Il y a alors la possibilité de découvrir ce qui nous est le plus spécifique et qui va réellement nous permettre de vivre une vie pleine. En effet, comme le dit Winnicott, une vie en bonne santé, ce n'est pas seulement ne pas être malade, c'est aussi réaliser quelque chose. Donc je pense qu'il est important de trouver les trois points que j'ai notés à droite. Assumer une mission. C'est-à-dire découvrir ce qui nous est le plus spécifique et transformer ça en un chemin de vie. Et quand on est bien axé dans une mission qui nous est importante, eh bien on donne beaucoup et on reçoit beaucoup, sans forcément être placé sur un registre oral ou anal. Oral de vouloir à tout prix tout dévorer, ou anal de vouloir imposer son désir. En fait, ça se fait à un autre niveau qui est plus génital. Assumer une mission. Découvrir un bonheur autonome, c'est-à-dire être capable de s'occuper soi-même des besoins fondamentaux de l'enfant interne, développer son propre parent interne. Cela veut dire avoir travaillé sur les imagos parentaux toxiques qui nous habitent et avoir découvert ensuite comment se reparenter. Ça, on le fait forcément avec l'aide de quelqu'un d'autre. Parce que si on est en déficit fort d'une image parentale bonne, eh bien il va falloir s'appuyer sur quelque chose pour en recréer une. Cela ne va pas être tout simplement de toute pièce. Souvent, c'est grâce au transfert positif qu'on a eu avec un thérapeute qu'on a pu reconstruire et découvrir qu'être un parent, ça peut être un bon parent. Ce n'est pas forcément que mauvais. Et puis, passer du régime dinosaure au régime mammifère. Ça, c'est quelque chose que j'ai emprunté à Bernard Montault, qui est un psychothérapeute qui, comme vous, n'est pas psychologue ni médecin et qui a créé des trucs intéressants. C'est celui aussi qui a été le traducteur du dialogue avec l'ange de Gita Malhas. Et alors, ça fait de nombreuses années qu'il élabore ce qu'il appelle la psychologie nucléaire. Un de ces exemples sympas, c'est le suivant. Pendant des millions d'années, ce qui a dominé sur Terre, c'est les dinosaures. Or, les dinosaures, c'était des reptiles à sang froid, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'une source de chaleur externe pour continuer à vivre, et ils avaient besoin d'énormes quantités de nourriture. Et ils ont fonctionné comme ça pendant très très longtemps. Et puis, quand il y a eu un vrai cataclysme, eh bien, ils ont tous disparu. Et ceux qui ont survécu, c'était des petits machins qui s'appelaient les mammifères, qui avaient trouvé quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire qu'ils avaient leur chaleur à l'intérieur, et qu'ils avaient réussi à garder leur chaleur à l'intérieur, indépendamment de la chaleur extérieure. En fait, ceux-ci ont traversé le cataclysme et ont survécu. Alors, pour Bernard Montault, nous nous trouvons actuellement à cette charnière où, jusqu'à présent, ce qui est la source du bonheur, c'est l'extérieur, gagner plus, avoir plus, recevoir en permanence ce dont on a besoin, etc. Et que peut-être l'étape suivante consiste à découvrir un bonheur intérieur, capable d'être bien quel que soit l'environnement extérieur. Évidemment pas complètement indépendant, de même que les mammifères ne sont pas complètement indépendants, mais malgré tout suffisamment indépendants des sources extérieures de chaleur. L'étape suivante, ce serait donc de pouvoir vivre un bonheur intérieur, quelles que soient les circonstances externes. Et je crois que ça tient beaucoup aux points qui ont été soulignés précédemment, à condition d'avoir réglé le côté gauche, c'est-à-dire d'être dans son axe, dans sa mission, et d'être autoparenté. Et puis, le troisième point qui fait que la vie est vivante et que ce n'est pas seulement vivre sans maladie, c'est la capacité à rester attentif au soi, à ce qui est issu de notre inconscient. Donc une fois qu'on a fait suffisamment de chemin, on reste branché sur nos rêves, sur nos fantasmes, sur les synchronicités. Terme jungien dont vous savez sans doute le sens, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, qui vient d'une manière synchrone, confirmer quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur, et ceci d'une façon acausale, et pourtant d'une synchronicité étonnante. Donc, souplesse, adaptabilité à la vie, c'est-à-dire être passé du côté de la vraie personne, et supporter de contenir le choc des opposés en attente d'une réponse méta. Voilà, c'est pas mal d'avoir une vision large de ce que l'on cherche à atteindre. Et cela indique le travail perso à faire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas réglé suffisamment vos questions œdipiennes, vos questions de frontières, etc., vous ne pouvez pas être thérapeute. Donc c'est pour cela que j'insiste, pour ceux qui n'ont pas fait de thérapie, il faut qu'ils fassent un chemin vraiment important. Et ceux qui en ont déjà fait, qu'ils refassent une tranche, ou qu'ils se perfectionnent sur les zones qu'ils n'ont pas assimilées. Et dans le futur, on dira aux gens, vous faites une formation en analyse intégrative réveillée, eh bien, il faut faire 3 ans d'analyse intégrative réveillée en même temps que vos 3 ans de formation. Tu poses la question suivante, est-ce que le travail peut se défaire lorsqu'il a déjà été fait? De mon point de vue, s'il a été fait correctement, mais quelquefois on s'aperçoit que ce n'est pas fini et qu'on a besoin d'en refaire une tranche. Mais s'il a été fait suffisamment longtemps et suffisamment en profondeur, c'est acquis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des rechutes, mais elles seront beaucoup plus brèves. C'est-à-dire, tu vas te retrouver par exemple avec un ancien pli névrotique ou de fragilisation, tu vas le reconnaître assez rapidement et tu vas t'en sortir assez vite. Donc ça, c'est la grosse différence, si tu veux, des trucs qui auparavant t'auraient fait plonger dans la déprime pendant des mois, vont te faire plonger dans la déprime pendant 3 jours. Ça, c'est une grande nuance. Je crois qu'une fois qu'on a franchi un certain nombre d'étapes, c'est un peu comme si on avait appris à nager. Quand tu sais nager, tu as malgré tout beaucoup moins de chances de te noyer ou de boire de grosses, grosses tasses. Et si tu bois la tasse, tu ne te noies pas quand même. C'est désagréable, tu tousses, tu pestes, mais tu ne te noies pas. Autre remarque, plus les phases précédentes sont mal passées, plus les phases suivantes seront mal passées. Et c'est pour ça que la psychanalyse a évolué. Au départ, elle pensait simplement, est-ce qu'on a dépassé la phase œdipienne? Et puis maintenant, on se rend compte de plus en plus que c'est, est-ce qu'on a passé correctement les phases précédentes, qui permettront ensuite de gérer la phase œdipienne? Ce qui fait que très souvent, il y a une étape de la thérapie ou de la psychanalyse qui est d'abord centrée sur le renforcement de la problématique identitaire avant de rentrer dans la question de la gestion des pulsions. Donc maintenant, quand on s'occupe de patients névrotiques, très souvent, on ne se limite pas à ça. On sait aussi qu'il y a d'autres noyaux plus fragiles qui vont apparaître à certains moments donnés. L'intérêt du travail symbolique par le rêve éveillé, c'est que le patient va là où il a besoin d'aller. Un peu comme si l'inconscient savait où se trouvent les failles, les fractures, les trucs mal gérés. Et donc c'est là-dessus qu'il va aller en priorité. Et c'est pour cela que c'est important que le thérapeute n'oriente pas trop le rêve éveillé, mais laisse la personne aller là où elle doit aller, parce qu'elle va se diriger en priorité là où ça fait mal, là où ça doit être traité. L'intérêt du passage par le symbole, c'est qu'effectivement, c'est plus aisé pour mettre en forme et commencer à visualiser ce qui constitue le problème prioritaire. Tu poses la question suivante. Comment se fait-il qu'on ne voit les symptômes d'une phase mal passée que plus tard? Réponse. Parce que malgré tout, on élabore des défenses. Si tu veux, peut-être as-tu mal géré un truc, mais tu tisses une couche protectrice dessus. Ça tient à peu près. Et puis s'il y a un traumatisme un peu fort qui vient de l'extérieur, ça le crève. C'est la comparaison que je vous avais déjà donnée. C'est un peu comme un psychotique qui fabrique une maison. On a l'impression qu'il fait quelque chose d'à peu près correct, mais en fait le toit est seulement constitué d'une toile, par exemple. Donc ça tient comme ça, c'est une toile peinte, c'est joli. Mais dès que survient quelque chose d'un peu fort, ça se crève. Alors souvent, par exemple, la schizophrénie est crevée par l'expérience de l'adolescence. Donc la plupart du temps, la schizophrénie se déclare chez l'adolescent ou le jeune adulte. Et souvent, la paranoïa est crevée par la crise de mi-vie. Donc souvent, c'est aux alentours de la quarantaine que ça ne tient plus et que ça craque, ça devient délirant. Mais avant, il y avait tout de même tout un tas de signes. Par exemple, quelqu'un qui va décompenser sur un mode paranoïaque, il a un certain style de personnalité, une certaine rigidité d'esprit, une certaine tendance à tout interpréter, une certaine tendance à cliver, à voir tous les autres comme mauvais et à se méfier. Enfin, il y a tout un tas de signes avant. Mais ça n'a pas été suffisamment secoué par la vie pour que ça éclate. De même que le futur schizophrène, il y a tout un tas de signes dans sa pensée un peu floue, un peu molle, ses réflexions, sa bizarrerie, des trucs qui sont déjà perceptibles. Quant aux enfants psychotiques, on peut se demander dans quelle mesure ils ont mal passé la phase du 0 au 1, par exemple. Les enfants qu'on voit en institution et qui sont sur le registre de la psychose n'ont pas su élaborer des mécanismes de défense suffisants pour faire illusion et pour réussir à temporiser tant bien que mal avec la réalité. Ils n'ont pas assez développé de faux self. Ta question est, comment peut-on savoir qu'on a réussi ce travail? Eh bien, si tu veux, tu as plein de signaux. Tu as d'une part une évolution des symptômes, un sentiment de vie bien plus pleine, une capacité de réaliser des choses que tu n'aurais pas réalisées auparavant, couple, famille, etc. Et puis par ailleurs, des signaux symboliques. Par exemple, tu as des rêves nocturnes, des rêves éveillés, qui te montrent un fonctionnement psychique complètement différent. Du genre de ce que je vous avais déjà donné en exemple. La personne qui faisait un rêve éveillé dans lequel elle était vachement à l'aise dans la jungle, avec des tas d'animaux sauvages qui étaient plutôt ses amis, ce qui contrastait complètement avec ses premiers rêves éveillés, qui se déroulaient sur une planète désertée, morte, irradiée, dans laquelle il se trouvait seul au monde, enfermé dans son scaphandre. Donc ça, d'une certaine manière, ça indiquait comment le psychisme fonctionnait maintenant, dans la jungle des pulsions et des désirs, et comment il pouvait maintenant gérer ça correctement. Ta question est la suivante. Est-ce qu'on peut imaginer la phase dépressive graduée comme un thermomètre où il y aurait le zéro et évaluer la gravité de la manière dont on l'a mal passé ou bien passé selon qu'on est par exemple à moins 5 ou moins 15? Réponse. On a essayé. On a essayé, oui, chaque théoricien essaye. Il y a eu Karl Abraham qui avait différencié finement le stade anal, avec une phase anale précoce et une frontière déterminant le devenir névrotique ou psychotique. Jean Bergeret, qui a essayé de trouver des lignes comme cela. Mais je ne crois pas que ce soit théorisé aussi rigoureusement que tu le dis. Simplement, on voit quand même si ça se situe là ou pas, en particulier avec la gestion de la frustration. Frustration de la grandiosité. Frustration du fait de découvrir qu'on est dépendant, limité, qu'on est vulnérable et qu'on n'est pas tout. Est-ce qu'on est capable de faire avec ça? au lieu de se buter contre ça, comme si on disait, pas question, j'y passerai jamais, etc. Bon, ce qui complique un peu la compréhension de tout ceci, c'est qu'il y a deux lectures psychanalytiques. Celle bien classique freudienne, comme dans le bouquin de l'ABC de la psychologie de Corinne Morel, avec la phase œdipienne, les fixations orales, anales, génitales, etc. Par contre, la psychanalyse centrée sur la construction de base situe des enjeux beaucoup plus précoces. Il parle aussi de la phase orale, d'accord, mais en soulignant que des choses se jouent dans les tout premiers mois, entre 0 et 3 mois. Il y a énormément de choses qui se jouent pour Mélanie Klein dans ces tout premiers mois, et elle se positionne alors autrement que sur simplement la question de l'oralité. Il s'agit pour elle beaucoup plus d'un jeu fantasmatique. Les fantasmes d'objets destructeurs, de toute puissance, de monde terrifiant, de monde extatique. Bref, on peut avoir des fixations orales sans forcément être sur un registre limite ou psychotique. Autre chose. Au niveau social actuel, il y a le discours qui dit « Pourquoi se frustrer? Il n'y a pas de raison, vous pouvez avoir tout. Il n'y a pas de raison d'avoir des limites. » Il y a le discours qui dit ça. Et puis la réalité qui transmet « Vous ne pouvez pas l'avoir, vous n'aurez rien de tout ça, on va vous saigner jusqu'au trognon. » Donc il y a quelque chose comme une sorte de double langage auquel on est soumis. Il y a ce mythe actuel qui transmet « Il n'y a pas de raison qu'on ait des frustrations, aucune frustration n'est supportable », comme si ce n'était pas structurant une frustration. C'est structurant une frustration, et surtout une frustration particulière, comme je vous l'ai dit, celle qui découle de nos choix. Car choisir, c'est se frustrer. Mais choisir, c'est aussi devenir plus fort. C'est ça qui est difficile aujourd'hui à comprendre, c'est que justement le choix, c'est une voie de solidification des frontières, mais qui suppose un certain masochisme sain, consistant à accepter de se frustrer de l'autre côté du choix, celui qu'on n'a pas retenu. Donc ça, c'est très contrebattu dans notre culture comme n'étant une bonne, n'étant pas une bonne attitude. Il faudrait ne pas choisir et avoir absolument tout. Revenons à l'état limite. Étant donné que les frontières sont mal établies pour l'état limite, il a un contenant psychique fragile. Donc ça veut dire que la personne état limite va être très facilement bouleversée, ou dans un sens ou dans l'autre, ou trop ou pas assez. Et que la moindre frustration va donner lieu à des stratégies incroyables. Par exemple, je me souviens d'une patiente qui avait comme stratégie intéressante de noyer la frustration subie au milieu d'un océan de frustration choisie pour ne pas ressentir cette frustration. Par exemple, si elle avait eu un procès-verbal qui l'avait obligée de payer 35 euros pour je ne sais quoi, dans l'heure qui suivait, alors qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait qu'elle dépense 150 euros d'achat divers pour essayer de noyer cette frustration des 35 euros dans les 150 euros. Reprendre le pouvoir imaginairement, mais au prix de multiples problèmes avec sa banque. Une stratégie très peu efficace qui consistait à ne pas faire face à cette frustration et à la gérer comme ça.